C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour. Mon but n'est pas d'assommer l'auditeur avec des connaissances trop complexes et trop universitaires, mais de vous faire aimer et découvrir notre patrimoine et son histoire, en la reliant, bien sûr, à notre grande histoire de France. Aujourd'hui, dans un brin d'histoire, nous allons évoquer la splendeur d'un château exceptionnel. Le château de Saint-Élix. Les écrits effectués sur cette demeure sont nombreux. Et je me suis surtout appuyé sur la grande connaissance de ces lieux de l'historien casérien Gabriel Manière. Dans notre sud-ouest, le château de Saint-Élix paraît bien étrange. Il est dans le style des châteaux de la Renaissance, du centre de la France. Cette implantation exceptionnelle a son origine dans le choix d'un Toulousain important, Pierre Potier. Pierre Potier est seigneur de la Terrasse, de Saint-Élix et de Castelnouvelle. Il est né à Toulouse en 1475. Sa biographie le montre délégué aux États de la province, qui eurent lieu à Nîmes le 12 novembre 1505. Et en 1523, il est député de la Sénéchaussée de Toulouse. Il fait partie d'ailleurs de la délégation envoyée auprès de François Ier par ses États. Ayant été distingué par le roi, il fut nommé maître des requêtes et président du Parlement de Toulouse. Habitué à l'architecture de la Renaissance durant ses séjours à la cour, Pierre Potier chargea un maître d'œuvre toulousain de renom, Laurent Clary, de la construction du château. Furent associés d'autres maîtres d'œuvre et ouvriers réputés de Toulouse. La brique fut confiée à Jacques Séguy et Armand d'Orgueil. Les ouvrages en pierre à Pierre Saint-Bresse. Les magnifiques charpentes seront réalisées par le maître fustier Jean Besson. À côté de ces prestigieux artisans toulousains, il y a Simon Beaulieu d'Oloron, en Béarn, qui assurera la couverture en ardoise. Et le maître verrier Joseph Gressier, qui posera la vitrerie. Jean Lebon posera l'horloge avec sa sonnerie. Les sculptures, elles, furent l'œuvre de Jean Molis, tailleur de pierre toulousain. Enfin, le jardin d'agrément du château de Saint-Élix est un jardin dit régulier. La construction de cette demeure devait durer de 1540 à 1548. Le corps du bâtiment est presque carré, 24-60 mètres sur 22, soit une surface de 541 mètres carrés 20. Et à chaque angle s'accroche une tour cylindrique d'un diamètre moyen de 9,50 mètres. La hauteur des tours est de 35 mètres. La répartition comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, ainsi que des combles importants. Et l'ensemble est entouré de douves, autrefois alimentées par un aqueduc. La structure d'ensemble paraît s'apparenter à une implantation castrale médiévale, mais tout l'ordonnancement et la facture rattachent le château au style de la Renaissance. Les mansardes, les cheminées, les éléments architecturaux et la sculpture décorative. de part et d'autre du château, extérieurement et perpendiculairement implantées sont les dépendances, les écuries, et surtout une immense orangerie, restée célèbre dans la mémoire de la région pour la qualité de sa fleur d'oranger. Le parc occupait 56 hectares, avec de remarquables allées de pins parasols. Au XVIIIe siècle à l'ouest, sera ajouté le bâtiment de l'Élysée. Pierre Potier avait un fils, Étienne, greffier au Parlement, puis président au présidial de Toulouse. Il vendit le château en 1575 à Roger de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde. Son fils, Roger, premier gentilhomme de la chambre du roi, reçut d'Henri IV, en avril 1599, l'autorisation d'user des bois et des forêts environnantes de Fousseret. En 1625, le domaine revient par héritage au premier marquis de Montespan. Et en 1686, à son neveu Louis Pardaya, marquis de Montespan et d'Antin, qui n'est autre que le mari résigné de Françoise Athénaïs de Rochechouart-Montemar, qui est madame de Montespan, qui deviendra la maîtresse de Louis XIV, dont elle eut 8 enfants légitimés. Le marquis, lui, finira ses jours en disgrâce dans son exil doré de Saint-Élix. Le duc d'Antin, fils du marquis, vendra le domaine à Jacques Jacob, qui va le louer à François de Beauvau de Rivaux, archevêque de Toulouse. Un érudit, il contribuera à la construction d'une bibliothèque réputée et restée célèbre sur l'histoire du Languedoc. Ensuite, après 1735, Jean-Charles Ledème devient propriétaire de Saint-Élix. Lui, il sera très épris du château. Son amitié avec le sculpteur toulousain François Lucas, qui est d'ailleurs l'auteur du bas-relief des ponts jumeaux à Toulouse, va être la base de l'embellissement, de la décoration intérieure avec une célèbre fontaine en marbre et stuc, des panneaux décoratifs et les autels de la chapelle aussi. Les célèbres sphinx en terre cuite, les lions, les chiens, statues de la mythologie classique qui sont dans le parc, avec une statue de lui-même, Jean-Claude Ledesme, dans l'orangerie. Tous ces travaux de Lucas ont lieu entre 1762 et 1778. Il faut noter aussi la construction de ce qu'on appelle l'Élysée et que l'on comparait au Petit Trianon à l'époque. Pour l'anecdote, il faut se rappeler que les trouvailles de la villa gallo-romaine de Chiragan à Martre-Tolosane, à cette époque-là, en 1786, ont permis aux châtelains de récupérer quelques sculptures antiques, notamment le buste des empereurs Didius Julianus et Caracalla. Nous nous approchons de la Révolution. Et le 9 primaire en deux, soit le 27 novembre 1793, le procureur syndic de Rieux requiert de faire démolir les tours, les créneaux, toitures, de ci-devant le château et faire combler les fossés dans le délai d'une décade. En fait, peu de dégâts seront constatés, hormis les deux tours sud qui perdront leur couverture d'ardoise. N'ayant pas de postérité, Jean-Claude Ledesme lèguera le château à Madame Carrère de Ménard de Ségou, épouse de son neveu. Ce sont des négociants déjà installés à Saint-Élix. Les dames Carrère, comme on les appelait, dames cultivées, impliquées dans cette société post-révolutionnaire, laisseront des écrits et entretiendront une bibliothèque et créeront le Salon des sciences. En 1857, le château et son domaine furent acquis par M. de Suarez d'Almeida, qui est un officier des gardes du corps. Et sa famille va s'attacher à restaurer et entretenir le parc et maintenir la splendeur du château. En 1926, le château et le domaine sont acquis par M. Ricard et est inscrit dès lors à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En 1928, le prince et la princesse Lubomirski occuperont le domaine, qui se revendra ensuite à Madame Fournès en 1935. En 1945, le château et le parc sont occupés par l'école de l'air. La demeure fut l'objet de graffitis et fut détruite partiellement par un incendie qui affecta les combles. Ce fut la nuit du 3 au 4 décembre 1945. Restait toujours la fontaine de Lucas, la grande cheminée Henri II et l'ensemble de la structure, objets d'art, stuc. Peu à peu, le vandalisme, les vols et les incompréhensions entre propriétaires et administration sont venus créer l'abandon. Monsieur Claude Giraud rachètera la ruine et en 1982, grâce à Monsieur Claude Cambou, la restauration de l'édifice, en accord avec le ministère de la Culture, est entreprise. Elle se terminera en 1990.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.